Merci, Seigneur, du message que tu m'as donné ce matin, de moi de livrer avec une pleine assurance. Parle à nos cœurs et donne-nous, Seigneur, de rompre avec les liens qui nous tiennent encore captifs, afin de goûter une pleine bénédiction qui vient de ta part. Je te prie dans le nom de ton Fils, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On continue la leçon, l'enseignement qui est commencé il y a plusieurs semaines sur le combat spirituel. Puis aujourd'hui, le titre du message, c'est « Apprendre à combattre les esprits séducteurs ». J'en ai déjà parlé dans d'autres messages qui étaient dans d'autres moments, mais là, il faut revenir là-dessus parce que ça fait partie de la série de l'enseignement. Frères et sœurs, nous sommes en guerre. Nous sommes sur la terre pour le reste du temps, après qu'on ait donné notre vie au Seigneur, nous sommes sur la terre dans le but d'attendre le retour de notre Sauveur ou notre départ pour aller le rejoindre. Et en attendant, on est en guerre. Nous ne sommes pas sur la terre pour se laisser aller à tout ce qui passe devant nous. Nous sommes en guerre. Puis dans cette guerre-là, il y a un enjeu. Mon salut pour ma vie, là, c'est mon salut. Ce qui est important, c'est que je persévère jusqu'à la fin. Ce qui est important, c'est que chacun de nous, qu'on réalise qu'on est en guerre, il y a un combat spirituel qui doit être livré, puis c'est votre salut qui en dépend. Sommes-nous capables par nos forces de se rendre jusqu'à la fin? Non. On doit apprendre à puiser les armes de Dieu, les directions de Dieu, parce que dans sa parole, il y a plein d'enseignements qu'il veut nous donner pour nous diriger. Puis si on se concentre sur comme qu'on a dit tout à l'heure, il veut nous émonder, il veut enlever de nos vies des choses. Si on se concentre à écouter sa parole, puis on obéit, on va vivre des victoires, on va avoir des délivrances. Les victoires dans la vie chrétienne ne se font pas tout seul. C'est toujours par des combats. Tu pries Dieu pour un point, tu y mets entre ses mains, puis tu prends les armes de Dieu, tu combats, puis Dieu te délivre. Il n'y a rien qui se fait tout seul. C'est comme on a parlé d'être émondé, mais il faut que tu acceptes de t'émonder. Il va juste commencer par te le montrer, mais après ça, il faut que tu acceptes qu'il l'enlève. Il faut que tu y donnes aux amis. Chaque point de notre vie, c'est comme ça. Puis on a vu, avec la première diapositive, j'ai tout mis les versets. On a vu le dernier message que j'ai emmené, c'est d'apprendre à combattre les esprits de dispute. On a vu qu'on avait des racines d'amertume, des racines qui poussent en nous, puis ces racines-là, c'est des racines amères, puis qui poussent des rejetons, puis que ça produit du trouble, et que plusieurs en sont infectés. Mais frères et sœurs, il y a une chose que je dois vous dire ce matin, il n'y a pas juste les racines d'amertume qui peuvent faire que je sois contaminé et que je contamine les autres. Il y a d'autres sortes de racines que Dieu va enlever. Des choses qui sont comme bien ancrées dans notre être. Il y a plusieurs raisons pourquoi que les choses peuvent être bien profondes dans notre cœur, puis qu'on ait même de l'attachement pour ces choses-là. Puis ces choses-là, quand on a de l'attachement, mais c'est une racine. Quand on est attaché à une chose, qu'on aime une chose, on s'ancre dans cette chose-là, puis on a de la misère à laisser cette racine-là. Dans la parabole de la semence, là, qui est sur le long du chemin, ça dit, il y a semé la semence, mais quand il n'y a pas une bonne terre, c'est un endroit pierreux, les racines ne peuvent pas prendre, puis là, dès que le soleil paraît, la semence s'assèche. Mais spirituellement, la semence de Dieu doit pénétrer nos cœurs, elle doit prendre racine pour qu'on grandisse, qu'on porte du fruit. Mais il y a d'autres sortes de racines, il faut qu'ils sortent de notre vie. C'est là-dessus que Dieu veut émonder ce matin. Le Saint-Esprit, c'est pas pour rien qu'il a fait qu'on parle de ces choses-là ce matin. C'est parce qu'il veut nous apprendre à combattre. Nous sommes en guerre. Puis il y a des racines qui sont excessivement dangereuses pour le chrétien, que quand il est en amour avec ces racines-là, ça peut l'emmener à rester là-dedans, puis il va pas avoir des fruits, des rejetons de ces racines-là, qui sont toutes sortes de méchancetés ou d'égarements ou d'aveuglement spirituel ou de fausses doctrines qui peut sortir de nous, qui va faire que plusieurs vont en être infectés. Nous pouvons être des chrétiens, si on ne se laisse pas émonder, qui va passer toute sa vie à faire du trouble dans l'Église du Seigneur. Parce que le Seigneur le montre. Je veux que tu changes, que tu arrêtes ça, cette chose-là. Il nous le montre dans tes prédications. On a touché quasiment tous les sujets de la vie chrétienne dans les prédications. Mais si c'est en cours dans notre vie, c'est parce qu'on n'a pas laissé le Seigneur dire « Oui, Seigneur, change ça, enlève ça de ma vie. » Faut passer à l'autre racine, parce qu'il n'y en a pas rien qu'une racine qui nous, des choses qu'on tient, qu'on a à cœur, qu'on aime, puis qu'il faut absolument, on n'a pas le choix, il faut renoncer à cela, dire au Seigneur, coupe ça, enlève ça de ma vie, sinon je vais infecter les autres. Aujourd'hui, on va travailler sur un des aspects de là-dessus. Il y en a plein. Mais l'autre fois, on a parlé racines d'amertume. Quand tu as de l'amertume, il y a des esprits qui ont accès dans ta vie, puis tu vas faire du trouble dans la vie chrétienne aux gens qui t'entourent. Dans ta vie, tu vas un désordre, mais tu vas en créer aux autres. C'est ce que ce verset-là nous dit. Puis c'est ce que ce verset-là nous dit. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Qu'il n'y ait aucune racine qui pousse, puis que ça produit des rejetons, puis que ça produit du trouble, puis que plusieurs en sont infectés. Frères et sœurs, quand Dieu veut faire le ménage dans l'Église, il faut qu'il coupe les racines premièrement de notre cœur. Sinon, tout reste là, puis ces racines-là dans l'Église, tout le monde est infecté. À toutes les semaines, on vit comme une infectation sans s'en rendre compte, que tu sois, même si je suis un prédicateur de l'Évangile, je peux infecter du monde par des mauvaises choses. Puis même si ça serait la plus petite brebis dans l'Église qu'une personne qui vient d'accepter Jésus, puis elle vient de commencer, elle aussi, elle a des racines qui peuvent infecter les autres. Ça, on ne fait pas le ménage quand on entend les messages. Ça va demeurer, puis ça va être encore là jusqu'à la fin, puis on va être tout le temps troublé par ces choses-là. Dieu a un grief envers certains de ses enfants. Dans ce verset-là, Dieu a un grief envers ceux qui prêchent la parole dans cette église-là. Il se passait quelque chose dans cette église-là que Dieu n'est pas content, et Dieu fait reproche aux prédicateurs de cette église-là. Parce qu'il dit « Envoie cette lettre-là à l'ange de l'église. » Puis le mot « ange », c'est « messager ». Le messager de cette église-là, il est responsable de porter les messages de Dieu. Lisons ce passage-là. Apocalypse 2:20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, tu la laisses enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je leur ai donné du temps afin qu'ils se repentent. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce verset-là? Frères et sœurs, ce verset-là a été donné à une église qui existait dans ce temps-là. Il y avait un ouvrier qui était là pour prêcher la parole de Dieu, peut-être plusieurs ouvriers, mais Dieu parlait en premier aux prédicateurs. Il y avait dans cette église-là Jézabel. Pourtant, on le sait que c'était pas réellement pour désigner le nom d'une femme qui était là dans cette église-là, c'était pour désigner la Jézabel qu'il y a eu dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'a fait la Jézabel, la femme d'Achab, qui était le roi d'Israël? Elle avait le roi d'Israël, il régnait sur Israël. Elle, sa femme, elle manipulait son mari, elle contrôlait son mari, puis elle a fait qu'il y ait deux genres de cultes voués à un autre dieu dans Israël. Baal puis Astarté. Elle avait 400 prophètes de Baal puis 450 prophètes d'Astarté. Il y avait 850 faux prophètes qu'elle, elle payait pour, puis qu'elle lui donnait à manger, puis elle faisait en sorte que les fausses doctrines venant de ce faux Dieu-là, puis qu'elle amenait le peuple d'Israël à se souiller à servir un autre Dieu. Puis c'est ce que la Bible appelle quand une personne appartient à Dieu, puis que la personne se met à aller vers un autre Dieu, à se faire traiter par Dieu d'adultère, spirituellement parlant. On devient des adultères ou des impudiques, spirituellement parlant. On se vautre à se prostituer vers un autre Dieu. Puis cette femme-là, cette Jézabel-là, Dieu est en train de dire, est dans ton église. C'est une femme, mais c'est un personnage qui enseignait, elle donnait des enseignements aux autres chrétiens dans l'église pour dire, livrons-nous à l'impudicité et mangeons des viandes sacrifiées aux idoles. Chose que Paul avait déjà parlé de dire qu'il ne fallait pas toucher aux viandes sacrifiées aux idoles. Mais elle, elle dit, voyons donc, c'est pas grave. Puis même si on ne fera pas l'étude du texte au complet, mais un jour, si Dieu le veut, je vais revenir, c'est cette lettre de l'Église. Mais dans son cas, elle trompait les serviteurs de Dieu, elle les amenait à désobéir à la parole de Dieu, puis les entraîner vers d'autres idoles, pensant qu'il y avait des avantages là-dedans. Tant que dans l'Église, les gens se tournent vers d'autres idoles, puis qu'on voit qu'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que Dieu est content de ce qui est en train de se passer. Ça dit dans ce texte-là, « J'y ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Quand Dieu n'intervient pas, quand que le peuple de Dieu, dans une église ou chez eux, se prosterne ou se prostitue avec des idoles de ce monde, puis s'il ne se passe rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne le voit pas, ça. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec ce qui est en train de se passer. C'est juste qu'il est en train d'y laisser du temps pour se repentir. Puis Dieu a déjà un jugement prévu pour juger et frapper les ceux qui pêchent, ceux qui se prostituent vers d'autres idoles. C'est ce que ça dit dans ce passage-là. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, ça c'est au verset 21. Puis elle veut pas se repentir. Puis au verset 22, il dit, je vais l'acheter sur un lit, puis je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Voyez-vous, le jugement est déjà annoncé. Dieu, on parle souvent, oh, Jésus va revenir. Puis là, ça va être le temps de juger les nations. Mais frères et sœurs, une chose qu'on ne doit pas oublier, avant que Dieu juge les nations, Dieu juge son peuple. Il juge son Église. Puis Dieu parle par des prédications, par ses serviteurs, les prophètes, dans le but de ramener son peuple à se sanctifier, à lâcher les idoles, à lâcher de se corrompre, puis de se souiller, puis d'être impudique ou être adultère. Parce que le mot impudique, là, on le sait que ça a rapport à quelqu'un qui n'est pas marié puis qui couche avec une autre personne. Au sens premier, c'est pornéa, c'est prostitution. Faire de la prostitution. Mais dans le sens, quand tu prends ce mot-là, dans le sens, mais comme une métaphore ou au sens figuré, c'est être adonné à l'idolâtrie, qui est un impudique, ou adorer des idoles, ou permettre à un autre de nous conduire à l'idolâtrie. Ça s'appelle de la prostitution, de l'impudicité. Tu deviens un adultère spirituel devant Dieu. Puis Dieu, il n'est pas content, même si ses enfants sont sauvés par la grâce. Il n'est pas content de voir ses enfants. Puis s'il laisse aller les églises dans les idolâtries, ou les individus dans l'idolâtrie, c'est pas parce que Dieu approuve ça. C'est parce qu'il donne du temps aux gens de se repentir. Lorsqu'on parle de séduction, là, parce que c'est ça que ça dit, il y a un reproche qui est dit à cet ouvrier-là, c'est que tu laisses faire Jézabel enseigner et séduire. Donc, c'était la responsabilité des prédicateurs de cette église-là d'aller voir cette personne-là qui enseigne ces fausses doctrines-là, puis dire « t'arrêtes ça immédiatement ». On ne te donne aucunement la permission de répandre tes fausses enseignements, tes doctrines fausses pour entraîner le peuple de Dieu à être impudique puis à manger les viandes sacrifiées aux idoles. C'est la responsabilité des ouvriers. Les ouvriers ont la responsabilité de l'Église de veiller, mais chacun de nous, on a la responsabilité de notre propre vie à mettre un terme aux idoles qu'on se rend compte que Dieu va nous montrer. C'est un amen à cela.
Amen.
Lorsqu'on parle de séduction, là, il dit, tu laisses Jézabel enseigner et séduire. Ça veut dire que tu es en train la laisser faire, étant, elle, par ses mensonges, est en train de mettre ça bien beau, pareil qu'à Adam et Ève, là. C'était bien beau de manger l'arbre défendu, pourtant Dieu avait dit, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Mais là, le diable est en train de mettre des avantages d'être comme ça. Elle a cru aux avantages, fait qu'elle a trouvé que l'arbre était agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a dit qu'elle trouvait ça bon. Elle croyait à la séduction plutôt que de se rappeler ce que Dieu avait dit. Touche pas à ça, mange-en pas. Fait quand on parle de séduire, ça provient des faux prophètes. Des personnes qui sont pas des vrais disciples de Jésus-Christ consacrés. Des faux prophètes, des faux docteurs, par des fausses doctrines. Ils enseignent des affaires, là, que ça trompe le peuple. Là, il y a par des faux raisonnements, ils amènent à suivre un autre Dieu. Ils amènent les chrétiens à suivre d'autres dieux. Ou se tourner vers des idoles qui sont de faux dieux. Puis des idoles, tout le monde ne sait c'est quoi une idole? Ben, des statues. Des photos qu'on rend un culte. Quand on se met à genoux là, devant un objet, c'est un idole. Il y en a plein de ça au Québec. C'est pas rien que dans d'autres pays, là. Il n'y a pas juste les totems indiens qui sont priés, là. Il y en a plein d'idoles. Des statues, des images qui sont là. Puis le monde, par leurs enseignements, ils mettent tout ça beau. Puis le monde va là-dedans, dans ces temples d'idoles-là, puis ils font un sacrifice avec toutes les autres qui participent. Ils embarquent dans des sacrifices, puis je vais continuer. Sorte d'affaire. Ils nous amènent à suivre les idoles, puis ça devient de l'apostasie. Quand on abandonne notre vrai Dieu, qu'on a reconnu qu'il était le vrai Dieu, le Sauveur, le Seigneur de tout, puis qu'on lui a donné notre vie pour le suivre, puis qu'on se tourne vers à se prosterner, se mettre à genoux, ou de faire des révérences, ou commencer à adhérer à toutes les fausses doctrines, on est en train de devenir apostates. On est en train de devenir des adultères spirituels. On est en train d'être égarés, de se faire entraîner dans un égarement qui nous amène des hérédies, des hérésies, c'est des fausses doctrines qui sont terribles, qui sont vraiment horribles aux yeux de Dieu. On devient nous-mêmes qui sommes enfants de Dieu, on devient être un imposteur parce qu'on n'est plus là, on ne prêche plus les vraies affaires, on est rendu qu'on parle dans le nom de ces autres choses-là. On devient un voleur et un brigand, comme la parole de Dieu dit, les voleurs et les brigands, les gens se tournent vers ça, ou des mercenaires, des gens qui ne sont pas des vrais, le vrai pasteur qui est Jésus-Christ de Nazareth, là, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Puis on s'attire le châtiment de Dieu. Pourquoi devons-nous fuir l'idolâtrie? Pourquoi qu'on doit fuir l'idolâtrie? Exode 20, c'est les 10 commandements de Dieu. Dieu n'a jamais aboli les 10 commandements. Et celui qui enseignera aux autres à supprimer le plus petit des commandements, il va être le plus petit dans le royaume de Dieu. Quel est le commandement? Tu feras point d'images taillées, des objets de culte en images, ou des représentations qui sont des photos dessinées ou n'importe quoi, de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ça, tu ne les serviras pas, parce que Dieu, l'éternel Dieu, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième ou quatrième génération. Pourquoi je dois fuir l'idolâtrie? Parce que c'est un des 10 commandements de Dieu qui ne dit pas l'enfer. 3 choses qu'il dit dans ce verset-là. Tu n'as pas le droit d'en faire. Tu n'as pas le droit de t'agenouiller, de porter une révérence à ça. Puis tu n'as pas le droit de servir ça. Parce que Dieu a déjà promis un jugement pour ceux qui se livrent à ça. Puis elle, la Jézabel, enseignait les serviteurs de Dieu à être séduits, à en manger, puis à participer à tout ça. Puis ils disent pas qu'ils ont été dans leur temple. Ils ont juste pris des viandes qu'ils savaient que c'était sacrifié aux idoles, puis ils en mangeaient. C'est aussi coupable. Parce que la conscience avait été éclairée de dire, ça a été offert aux idoles. Fait quand tu sais que c'est une affaire qui appartient aux idoles, tu touches pas à ça. Parce que tu vas souiller avec les esprits qui en arrière de ça, c'est ce qu'on va voir. Aimer les idoles, ça l'amène la colère de Dieu. Lorsqu'on essaie de donner des caractéristiques divines à un humain ou à un animal, puis là qu'on veut rendre un culte à ça, mais Dieu, il est vraiment en colère de tout cela. De voir l'humanité se tourner en adoration vers la création plutôt que vers le Créateur. Il y a un verset dans Romains. Romains 1, verset 18 et le verset 23, ça dit que la colère de Dieu, elle se révèle du ciel contre toutes les impiétés et les injustices des hommes qui retiennent la vérité captive. Puis le verset 23, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images qui représentent des hommes corruptibles ou des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Fait que les gens ont changé la gloire de Dieu en représentation d'animaux, d'humains, en statues d'humains, en statues d'animaux, ou en photos d'humains, en photos, puis là, ils rendent un culte à ça. Puis Dieu est en colère de voir l'agissement des gens aujourd'hui qui se tournent vers les idoles. Si je vous dis ça, là, c'est parce que je veux qu'on réalise qu'est-ce qui se passe, pas rien que moi qui le veux. Je crois que c'est Dieu qui m'a inspiré ce message-là. De toutes les fausses religions, puis tout ce qui se véhicule avec les fausses religions. L'idolâtrie, frères et sœurs, est directement liée au démon. C'est pas si grave que ça. C'est une belle statue de la Sainte Vierge, puis elle est belle, elle est bien faite, puis elle est bien colorée, puis il y a bien des fleurs autour. C'est juste parce que c'est beau. L'idolâtrie est directement liée au démon. Tu prends son objet de culte à ce démon-là, tu fais rentrer le démon avec. C'est ce que Paul nous enseigne dans le prochain verset, dans 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 19 à 21. Paul est en train d'enseigner exactement cette idée-là. Puis je l'ai pris dans la version le français courant, c'est encore plus facile à comprendre. Est-ce que je veux dire par là qu'un idole ou que de la viande qui lui est offerte en sacrifice ont une valeur quelconque? Il dit non. Mais j'affirme que les païens sacrifient. Ce que les païens sacrifient est offert à qui?
Aux démons.
Aux démons. Et non à Dieu. Même si la personne te dit, je suis en train d'offrir ça à Dieu le Père. C'est un sacrifice-là qu'on est en train de faire. C'est un sacrifice à Dieu-là. Dieu n'a pas besoin de ces sacrifices-là, avec ces idoles-là, ni cette viande-là. Il n'a pas besoin d'aucun culte dans ce sens-là. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de le sacrifier à des démons et non à Dieu. Puis là, c'est l'autre verset qui est bien important qu'il faut réaliser. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Là, ça s'adresse à des chrétiens. Comment ça se fait que ça peut arriver qu'un chrétien qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit, puisse être en communion avec des démons? Il dit, vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas manger à la fois à la table du Seigneur puis à la table des démons. Ou bien voulons-nous susciter la jalousie du Seigneur? Pensez-vous que nous soyons plus forts que lui? Pourquoi qu'il dit, il ne faut pas que vous mangiez à ce table-là, pas à ce table-là? Pourquoi qu'il dit ça? C'est basé sur des versets qui disent déjà que Dieu va juger tout ça. Il y a déjà des jugements qui planent là-dessus, puis qui sont à veille de tomber sur l'Église du Seigneur. Quand on parle d'apostasie, là, c'est l'abandon de la foi. Pour croire en des séductions qui sont là, puis il y a une puissance d'égarement que la Bible nous a promis qu'elle sera là à la fin des temps. Et si vous ne le saviez pas, frères et sœurs, nous sommes déjà arrivés à la fin des temps. La puissance d'égarement est déjà en train d'agir, puis est en train de séduire les chrétiens qui embarquent dans les cultes des autres religions. Mais il y a des choses qui ont été offertes en sacrifice à d'autres dieux, puis même s'ils appellent leur Dieu Dieu, même s'ils appelleraient le Dieu Jésus, ils sont en train de faire des sacrifices. C'est un sacrifice à un autre Dieu, pas à Dieu. Dieu nous demande sacrifice de louange. Bienséance et libéralité, c'est de tels sacrifices que... Offrir notre vie en sacrifice à Dieu, il ne nous a jamais demandé de sacrifier de la viande, puis de sacrifier des cultes de sacrifice pour mériter quelque chose. Non. Ces religions viennent de visions et d'apparitions d'anges déchus qui leur ont réclamé un culte. Toutes ces fausses religions-là que tu vois là, puis ont monté des structures, leurs religions ont de l'air bien installées, puis ça fait des siècles que ça existe. Tu vas voir l'origine de ça, ça vient tout qui ont eu des apparitions d'un ange, puis ont eu des enseignements de cet ange-là, sont rendus qui donnent un culte à cet ange-là. Les Mormons donnent un culte à l'ange Moroni qui est apparu à Joseph Smith, puis ont écrit un nouveau d'autres livres pour donner d'autres enseignements. Puis, en tout cas, toutes les religions viennent d'apparitions d'anges qui ont enseigné des choses contraires à la parole de Dieu. Colossiens 2,18 nous le dit, « Qu'aucun homme, sous l'apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. » Les gens qui ont des visions d'anges, ils rendent des cultes aux anges, puis ils s'abandonnent à leurs visions. Il y a mieux croire aux visions qu'ils ont eues que de croire à la révélation de la parole de Dieu. Au lieu de rester ancré à la parole, « Oh, un ange m'a apparu dans mon rêve ou en personne, puis là, il m'a dit ci, il m'a dit ça, puis là, ils ont parti un culte à cette doctrine-là. » Puis ils s'abandonnent à leur vision plutôt que de dire « Arrière de moi, Satan, ta doctrine est contraire à la parole de Dieu, moi je veux suivre la Bible, puis je veux rien savoir de ta religion, ou de tes enseignements, ou de tes mensonges. » Toutes ces visions-là, qui sont des visions qui rentrent en contradiction avec la parole de Dieu, là, toutes ces visions-là sont soutenues par des fausses doctrines qui proviennent du diable. C'est ce qu'on voit dans 1 Timothée 4.1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est exactement dans le temps où on est rendu, là, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, là c'est là que les liens, les racines se prennent, ils s'attachent à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Les doctrines de démons, c'est des enseignements inspirés par les démons qui amènent, qui semblent séduisants, qui semblent vrais, qui semblent semblables à la Bible, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Ils peuvent donner tous les noms qui sont écrits dans la Bible aux personnages de leur religion. Mais si tu regardes le plan du salut, ça réfère tout le temps à autre chose que juste croire au Messie. Puis comme le salut est par le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Là, ils vont dire, tu vas être sauvé en pratiquant notre religion, tu vas être sauvé en passant par Marie, puis qu'il va te donner le salut parce que la grâce parvient par Marie, tu vas être sauvé en priant les saints, tu vas être sauvé en priant ton oncle qui est mort, tu vas être sauvé en... Mettez-en des religions, ils ont toutes des méthodes d'être sauvés différentes de ce que la Bible elle, enseigne. Et le chemin qu'on doit suivre, il est aussi différent. Donc, quand quelqu'un enseigne des choses différentes de ce qu'il y a dans la Bible, ça vient de démons. Ce texte-là, il est clair, puis il ne peut pas être plus clair que ça. C'est des doctrines, des enseignements de démons, puis c'est des esprits séducteurs. C'est pour me séduire, pour que j'aille, pareil comme Ève. C'est pas si pire que ça d'en prendre. Puis même, j'aurais des avantages d'en prendre. Ça serait bien mieux si on en prendrait. Quand tu es séduit, c'est de même que tu penses. Au lieu de rester attaché à ce que Dieu a dit, puis il a dit non, « Ah oui, j'en veux. Ça me donnera un plus à l'œuvre de Dieu. Ça me donnera des plus à peut-être sauver ma famille. » Puis c'est écrit qu'ils vont abandonner la foi pour s'attacher. Il est où le lien, la racine de notre cœur es-tu dans ces mensonges-là? On a-tu commencé à croire à ça, puis prendre racine dans ces choses-là? Tout ce qui est mensonger, puis qu'est-ce qui est en train d'entraîner tout le monde à l'étang ardent de feu et de soufre, au jugement éternel? Puis moi, je vais prendre plaisir à tous ces mensonges-là, puis commencer à adhérer, puis penser qu'il y a un avantage là-dedans, puis prendre racine là-dedans. Qu'est-ce qui arrive si je prendrais racine là-dedans? Je suis en train de vous prêcher que c'est pas si grave que ça. C'est pareil comme nous autres. C'est tout pareil, les religions. On s'en va tous à la même place. Si ça aurait été le cas, Dieu le Père n'aurait pas envoyé son fils mourir à la croix. Il aurait dit, suivez telle religion, puis n'importe quelle religion, vous allez être sauvés pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Il n'y a rien de pareil. Les démons, c'est semblable. Ah oui, pour être semblable, ça a de l'air attrayant, puis ça a de l'air bien structuré, puis ça fait, il y a bien plus de monde même dans cette église-là. Frères et sœurs, la parole n'a pas changé. Notre racine, là, elle doit être dans la parole de Dieu et non pas dans ces faussetés-là. Derrière l'idolâtrie, l'enseignement des démons, les fausses doctrines proviennent de Satan, qui est déguisé. Ceux qui s'y attachent deviennent liés par eux et sont utilisés par l'ennemi. Si tu adhères et tu acceptes que ces idées-là sont belles, sont bonnes, il y aura des avantages, puis tu commences à t'attacher à ça, tu viens de donner un accès au diable. Le diable, après ça, parce que tu as accepté sa fausseté, il t'a accepté le mensonge qu'il t'a donné dans la tête, tu aurais pu dire non, la Bible, elle dit pas ça, la Bible dit ça, je rejette ça. Mais si on croit, puis on adhère, puis on accepte, ça, on se crée des liens là-dedans, on est liés par ça après ça. Puis ça a un effet dans notre vie, sur notre témoignage, et plusieurs vont en être infectés. C'est pas des farces. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des gens, frères et sœurs, qui sont déguisés en ministres de justice, ils ont de l'air des vrais chrétiens, puis leur enseignement, c'est des doctrines de démons qui sont en train de séduire le peuple de Dieu, puis les gens croient à ça, puis adhèrent à toutes sortes de mensonges, puis les gens sont liés. Le Vineyard, ça en est à un enseignement, puis combien est-ce qu'il y a eu de chrétiens liés avec cette fausseté-là? Puis ils ont vécu des choses que ça l'a amené, que dans ces églises-là, ils se sont divisés. Puis les chrétiens sont partis d'un bord puis de l'autre, puis il y en a qui ont resté blessés pendant longtemps. Ça a pris du temps à guérir. Puis ça a créé des chicanes, ça a créé des frustrations, ça a créé toutes sortes d'affaires qui n'étaient pas de Dieu, parce que il y a des gens qui ont adoré, qui ont aimé cet esprit-là qui semblait comme Dieu, puis ça valait bien davantage, hein? Puis ils sont pognés. Bon, là, dans verset 2 Corinthiens 11, 14, qui dit, c'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant, il n'est pas étrange qu'on trouve ces ministres qui se déguisent aussi en ministres de justice. Puis le Seigneur dit, « Seigneur, comment se fait qu'il y a de l'ivraie parmi ton blé? » Il dit ça, l'ivraie, c'est l'ennemi qui l'a mis là. « Tu veux-tu qu'on y aille, tu t'arraches? » Non, laissez-les croître ensemble. Puis quand viendra la moisson, celles qui sont à moi, ils vont y ramasser. Les autres, ils vont périr. Leur fin sera selon leurs œuvres. Dans l'Église, il y a des faux ouvriers qui prêchent des fausses doctrines, qui adhèrent aux fausses religions, puis essayent d'attirer le peuple de Dieu parce qu'ils sont eux-mêmes embarqués dans une séduction, sont liés par cela, puis parce qu'ils n'ont pas rompu à cela, ils entraînent les autres. Puis plusieurs en sont infectés. J'ai dit au début, c'est un combat spirituel. On est en guerre, frères et sœurs, puis la fin, c'est le salut de notre âme. Quand on touche à l'œcuménisme, frères et sœurs, le mot œcuménisme veut dire se rassembler ensemble pour qu'on fasse qu'un. qu'on laisse tomber toutes les petits différents de les différences dans les pensées, puis dans nos doctrines, puis dans nos religions, puis dans nos petits. On laisse tomber toutes les différences, puis on désire se rassembler entre tous ceux qui font même pas partie de la famille de Dieu, avec toutes leurs religions puis leurs doctrines. On cherche l'avantage et l'unité puis la communion avec tout ce qui est là, sauf de rester ferme sur la parole de Dieu. Vous allez le comprendre ensuite. Présentement, frères et sœurs, on le voit sur Internet, on les voit, les tendances des chrétiens, là, vers l'écuménisme, avec une nouvelle doctrine qui vient de sortir, ça fait pas longtemps, le Christ-Lamb. Le Christ-Lamb, c'est une unification entre des chrétiens qui veulent être écuméniques avec l'islam, avec les musulmans. Ils fraternisent ensemble, ils font des réunions de prière ensemble, ils font des cultes ensemble, ils se font bénir par le pape, il y a des représentants baptistes, évangéliques, pentecôtistes, qui vont dans ces activités-là, puis ils se font bénir par le pape. S'il y a bien une fausse doctrine, c'est bien là. C'est l'écuménisme.
C'est parce qu'ils ont le même père, Abraham.
Mais ils se donnent toutes sortes de belles raisons, de belles excuses, ça semble bien avantageux. Parce que quand tu te réunis avec toute cette gang-là, on se dit, on a bien plus de force quand on est tous ensemble. Peut-être humainement parlant, on se dit ça, mais pas devant Dieu. Puis j'allais le voir dans d'autres versets. Le Christ-Lamb, les catholiques romains, il y en a qui font des communistes avec les catholiques romains puis sont réunis. Il y en a qui font des communistes avec le judaïsme, la loi de Moïse, puis ils veulent retourner à se faire circoncer puis pratiquer toute la loi de l'Ancien Testament. Il y en a qui se tournent avec les bouddhistes. Il y en a qui laissent rentrer le Nouvel Âge dans leur église. Il y en a qui restent rentrer l'occultisme, la magie, le spiritisme, le satanisme, l'astrologie, puis les voyants, puis tout ça, l'hypnose. Ils laissent rentrer ça dans l'église, puis dans les maisons. Où c'est qu'on retrouve la plupart de ces choses-là, qu'on accepte, puis qu'on adhère, puis qu'on est content de voir ça? De la magie, puis de l'astrologie, puis des sciences occultes, puis la puissance des ténèbres directes. C'est comme si les chrétiens sont rendus séduits, éblouis par tous les films, puis toutes les choses qui se passent. Ça a l'air extraordinaire, la puissance de la magie. Mais la puissance de la magie, c'est pas le Saint-Esprit, c'est la puissance des ténèbres. C'est en train d'envahir les maisons des chrétiens. T'écoutes les films, là, sont rendus rares, les films, qu'il n'y a pas de magie, qu'il n'y a pas de débauche sexuelle, mais là, on ne parle pas de la sexualité, mais juste ce qui est de fausses religions et des cultes à Satan. C'est rien que de ça, des vampires, c'est rien que de ça. Puis ça rentre dans le cœur des chrétiens, puis les racines sont là. Puis les jeux, c'est des jeux qui ont de la magie. Il y en a des jeux qui ont de la magie. Ça peut sembler le fun, divertissant de jouer à des jeux, mais si les jeux t'amènent à adhérer que tu as des pouvoirs magiques, puis tu fais des choses, arrête ça! Ronge ce lien-là, brise ça! Laisse pas la racine t'enraciner dans ça! L'ennemi, après ça, il y a un lien direct dans ta vie, puis tu vas produire du trouble quand tu te promènes dans la vie chrétienne, parce que tu es contaminé par ce qui s'est passé là, par ces choses-là. Mais, hey, c'est pas des farces. Là, 150 ans, là, on a entendu plein des grands prédicateurs, Charles Finney, puis John Bunyan, puis tu pourras-tu les nommer la liste de ces grands prédicateurs de réveil, puis il y a eu des centaines, des milliers de personnes qui se sont converties dans leur ministère. C'était des gens qui étaient consacrés à Dieu. T'as pas des gens qui vivaient dans le monde. Dans leur prédication, ils disaient aux autres chrétiens de même pas aller d'une pièce de théâtre dans ce temps-là. C'était, on vit pour Dieu, on marche dans la prière, dans l'étude de la parole, puis on parle de Dieu, puis on sanctifie de ce que le monde et ses attraits, puis ce que le diable, aujourd'hui le diable par la télévision, il s'infiltre dans nos pensées, puis il nous donne des racines à aimer ça. On est vraiment liés, frères et sœurs. Puis après, on se demande pourquoi que dans l'Église du Seigneur, il n'y a pas de puissance. On est liés. Il nous tient. Il faut briser cette racine-là, cette racine de séduction, de doctrine, puis on embarquait avec toutes ces affaires-là. Il faut briser cela. Tout ce qui n'est pas enseigné par la Bible est une doctrine de démons. Des gens délaissent la Bible, ils la lisent plus pour se ramollir, puis ils retournent aux croyances populaires en pensant « c'est pas si grave que ça ». La preuve, j'y vais de temps en temps faire mon tour dans ce culte-là. C'est correct, il se passe rien. S'il se passe rien, c'est parce que Dieu il donne du temps pour te repentir de ta souillure. Parce que Dieu a considéré que c'était de l'idolâtrie, tu es en train de souiller son nom, tu es en train de donner un adultère spirituel quand on patauge dans ces choses-là. Même dans l'église de Corinthe, il y en a un exemple de fausseté qui est rentrée dans l'église de Corinthe. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 11, 3, 4, je l'ai déjà lu, mais je vais y aller bien vite. Mais partout, comme Ève se laissa égarer par la ruse du serpent, je crains que votre intelligence ne se corrompe et ne vous entraîne loin de l'attachement fidèle et pur au Christ. En effet, vous supportez fort bien que quelques-uns viennent vous annoncer un Jésus différent de celui que vous nous avons annoncé. Ça se passait dans le temps des apôtres, ça. Des gens qui prêchaient un autre Jésus. Il dit, j'étais également prêt à accepter un esprit et un message différent de l'esprit. Là, les Corinthiens sont en train d'accepter un autre Saint-Esprit, puis avec un autre évangile, un autre message qui était enseigné avec cet autre Jésus-là, c'était rentré dans l'église de Corinthe. Fait que si ça se produit aujourd'hui, d'autres se font passer pour le Saint-Esprit, puis des religions se font passer pour un autre Jésus qui n'est pas le Jésus de la Bible, c'est rien de nouveau, ça c'était la même affaire dans le temps de Paul. Savez-vous qu'il y a présentement des gens charismatiques, là, c'est du monde qui vit des dons surnaturels, là. Ils font des miracles. Le monde tombe à terre, les foules tombent à terre. Puis là, supposément, il y a des guérisons, on ne le sait pas, parce que j'ai entendu plein de témoignages de ces gens-là, puis que c'était des faux miracles, c'était toutes des affaires à manger, mais même s'il y en aurait, ça dit que Jésus a dit que les faux prophètes font des miracles au point de séduire, même les élus. Qu'est-ce qui fait qu'un élu ne se laissera pas séduire? C'est que lui, il veut rester à cheval sur la parole de Dieu. Il n'est pas question de croire en d'autres choses que d'autres religions sont autant sauvées que la mienne. Tu ne peux pas penser qu'il y a d'autres plans du salut. Donc, si tu ne crois pas qu'il y a un autre plan de salut, tu ne peux pas te joindre avec ces autres groupements-là. Mais il y en a qui font des miracles. Puis, ils servent à éloigner les chrétiens de la Bible et de leur sauveur pour les amener vers ces autres fausses doctrines-là. J'en ai vu moi-même aller dans une réunion où c'est un personnage très connu. Il vit des tout le monde tombe à terre, puis c'est supposé être bien puissant. Puis j'ai vu ce gars-là. Sur son stage, il y avait trois chaises d'ouvriers qui étaient assis à côté de lui. C'était trois prêtres catholiques qui était assis à côté de lui, puis lui, c'est un évangélique, puis il prêche la puissance. Puis, après ça, il a fait monter sur le stage trois prêtres catholiques, trois personnes catholiques qui étaient pour se faire ordonner prêtre, puis il les a fait féliciter devant tout le monde. Après ça, en continuant sa prêche, il disait, moi, j'ai rien contre les catholiques, puis on est tous frères, puis c'est tout pareil. Il servait d'abord pour sa chorale en arrière, qui avait peut-être 150 personnes. Il a dit, levez votre main, ceux qui sont catholiques, et à moitié de la chorale a levé sa main. Ce gars-là marche comme ça avec la fausse doctrine catholique. Pourquoi qu'il est de même? C'est parce qu'il est aveuglé puis il est séduit. Puis il est lié par ça, puis il est utilisé par l'ennemi, même s'il se passe bien des puissances dans sa réunion. Il est utilisé pour amener les chrétiens à relâcher leurs barrières envers les fausses doctrines, puis à dire, on est tous pareils. Toutes les religions sont, ils parlent de Dieu. Mais les autres religions ne sauvent pas. Il y a juste un seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Plus qu'on côtoie, puis qu'on reste Apocalypse 16, 14, qui dit ce que je suis en train de dire, ce sont des esprits de démons qui font des prodiges vers les rois de la terre pour les rassembler pour le grand jour du combat du Dieu Tout-Puissant. Il y a des gens qui marchent avec des esprits de démons, de puissance, puis ils font des miracles, puis le but, c'est de rassembler tout le monde à faire la guerre au Christ. Quand on regarde ça, ils parlent de Dieu, ils parlent tous les mots qu'il y a dans la Bible, sauf Tu le vois par ses fruits que sa vie est liée par le catholicisme. Il y en a bientôt qui vont le faire par le... Il est lié par le Christ-l'âme, uni avec les musulmans, puis il y a des miracles qui se produisent dans nos réunions de musulmans. Puis là, le monde, les chrétiens vont penser, ben c'est Dieu qui est d'accord. Non, Dieu donne du temps aux gens de se repentir, puis ces miracles-là, c'est des esprits de démons qui font des miracles dans le but de séduire le peuple de Dieu, puis qu'on relâche de notre fermeté, puis qu'on s'en va adhérer, puis être contaminés nous autres aussi de ces esprits-là, puis à notre tour, on va contaminer d'autres personnes, lâchant la Bible, puis les principes, si on est tous pareils, on est tous frères, puis on s'en va tous à la même place. C'est le diable qui parle quand vous entendez ça, frères et sœurs. Plus qu'on côtoie et qu'on reste attaché au mensonge, plus que nous devenons égarés. Parce que quand tu n'es pas égaré, tu sais où tu t'en vas. Quand tu vois venir un mensonge, tu sais que c'est un mensonge, puis tu rejettes ça tout de suite. Mais quand tu côtoies ça, puis tu adhères à ça, tu es rendu égaré. Regardez bien ce prochain verset-là dans Osée 4:12. Mon peuple consulte son bois. Et c'est son bâton qui lui parle. Hey, il y a un bâton qui parle, cette religion-là, là. Avez-vous déjà entendu parler un bâton? Moi, jamais, mais même si j'en entendrai un parler, là, c'est arrière de moi, Satan. Si la parole de Dieu est, qui est annoncée, c'est pas la parole de Dieu, là. Aujourd'hui, il y a la croix qui parle, mais il faut faire attention, c'est même à ça. Parce que les cultes à la croix. Ça n'a pas rapport à la croix de Jésus de v'là 2000 ans, mais il y a des cultes, des agenouillements, puis des prosternations et des services qui se font devant ces croix-là, les crucifix. C'est un idole, la même chose. Faut pas toucher à ça, frères et sœurs.
Pourquoi est-ce qu'on porte mire à l'envers?
Il y a d'autres religions où on dit à l'envers, mais il y en a qui sont des croix bien à l'endroit. Les crucifix dans les églises catholiques, là, c'est des idoles. Ils s'agenouillent devant des statues. Ils disent, mon peuple consulte son bois. Son bâton lui parle, car l'esprit de prostitution spirituelle, égare. Là, ils sont rendus tellement égarés qu'ils entendent le morceau de bois parler. Et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ceux qui rendent des cultes à des morceaux de bois, c'est de rendre un culte à une statue. C'est juste un morceau de bois, il est taillé en forme d'une femme ou d'un gars, ou en forme d'un bébé Jésus. Il peut être dans ta crèche, il peut être ailleurs, qu'on commence à dire que c'est notre sauveur, qu'on commence à croire que ça pourrait être lui, puis même, on pourrait même penser qu'on a un avantage de se mettre à genoux devant ça, puis commencer à faire une courte prière devant ces objets-là. Ces objets de culte-là, c'est des idoles. Dieu est esprit, il n'est pas représentable par rien. Jésus est omniprésent, même chose que Dieu son Père. Essayons pas de le représenter comme que Hollywood essaye de le représenter en forme d'un humain ou d'une autre religion, ça va être en forme d'un animal. On n'a pas le droit de représenter Dieu, ni ce qui est dans le ciel, ni ce qui est sur la terre, ni dans les eaux. On n'a pas le droit de servir cela. Plus qu'on les côtoie, plus qu'on est affecté par l'esprit de prostitution, plus qu'on devient égaré, que ce verset-là dit. Pas moins qu'il l'a inventé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Puis ils se prostituent loin de leur Dieu. Quand tu es rendu là, tu es déjà rendu loin de ton Dieu. Quand tu es deux pieds dans ce bâtisse-là, tu es déjà en train de t'éloigner de Dieu. Dieu a déjà condamné ça. Puis il va y avoir un jugement à son retour. Mais quand l'Église est rentrée là, on a un problème. C'est ça l'œcuménisme. L'Église du Seigneur qui rentre dans les temples de d'autres religions, on fraternise, on est tous frères, on se bénit les uns les autres, on prie ensemble. C'est satanique. T'es déjà dans les deux pieds dans un esprit d'égarement qui est en train de te séduire puis t'emmener loin de Dieu. Le véritable évangile, frères et sœurs, le vrai évangile de la Bible, n'amène pas l'œcuménisme, qui est un rassemblement, mais la séparation. Dans Matthieu 10, Jésus l'a dit au verset 34. « Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, il n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. L'œcuménisme cherche à rechercher la paix sur la terre. C'est ça que ça cherche. Oublions nos doctrines, recherchons être en paix avec tout le monde. C'est pas ça que la Bible a dit. Plus tu vas vouloir être ancré dans la parole de Dieu, plus ça va créer une séparation entre toi et les autres. C'est impossible d'être œcuméniste puis être chrétien engagé dans la vérité. C'est impossible. La minute que tu rouvres la bouche puis tu commences à dire les vraies doctrines de la parole, mais tous ceux qui sont œcuméniques, là, ils aimeront pas ça. Pensez-vous que les œcuméniques sont contents d'entendre ce que je prêche là? Ils sont tous pas d'accord. Puis ils vont tous donner un paquet de bonnes raisons pourquoi qu'on devrait être unis qu'eux autres. Pourquoi qu'ils sont de même? Parce qu'ils ont les racines encore dans cela. Ils sont égarés par ces esprits de prostitution-là qui égarent. Nous, qui voulons marcher dans la parole, il faut mettre un terme, briser tout lien. Même si c'était des liens à cause que quand on était jeune, on est élevé là-dedans. Toute notre famille est là-dedans. Voyons donc, je vois bien plus d'avantages d'aller dans le culte, de participer à le culte. Mais quand je suis assis là, je participe à le sacrifice qu'ils font à leur faux Dieu, puis je deviens souillé par l'esprit d'égarement qui est là, dans ce lieu-là. Après ça, je m'en vais dans l'église, puis je contamine les autres par ces faussetés-là. Puis si on dit, « Ah ben moi, j'aime bien mieux ma mère, qui est catholique, puis par respect à ma mère, moi, je vais y aller pour y faire plaisir. » On est en train d'aimer notre mère plus que Dieu. C'est ça que le verset-là est en train de nous dire. Mais si on n'a pas encore décidé de faire passer Dieu en premier, on n'est même pas digne d'être son disciple. C'est ce que ce verset-là dit. Quand tu viens à Jésus, il faut que tu sois prêt à rompre ces liens-là. Tu ne crois plus que la religion catholique te sauve, sinon reste catholique si tu penses que ça te sauve. La religion catholique ne sauve pas personne, il n'y a que Jésus qui sauve. Puis même tu prierais Marie du matin jusqu'au soir, 365 jours par année, puis tu te prosterneras vers les plus beaux crucifix que tu as payés, peut-être tu es endetté de 25 000 $, ouais, le plus beau crucifix, toutes les lumières, puis toutes les flashs qu'il y a pour essayer d'être bien plus beau encore. Tu n'auras aucun avantage que d'être égaré et contaminé par des esprits de séducteurs, des doctrines de démons qui te lient et qui t'empêchent de marcher dans la vérité. Dieu s'attend à ce que son peuple se purifie de ses abominations. Jérémie 13, 21. J'achève. J'ai vu tes adultères. Dieu est en train de parler au peuple juif. J'ai vu tes adultères, les adultères spirituels, parce qu'il est en train de se prostituer avec des faux dieux, et tes hennissements. Ça, c'est quoi les hennissements? C'est le bruit du cheval. Toutes les lamentations que le monde font dans leur prière. Toutes les on en voit à TV des cultes qui rentrent des cultes, là, puis c'est tous des bruits. Et le vagneur, là, hein, il faisait pas juste l'hennissement, il se promenait à quatre pattes aussi, cet esprit-là. Il faisait promener les chrétiens à quatre pattes, puis ça a été une honte sur le christianisme. Ça a créé un scandale partout, puis ça a créé bien des divisions. J'ai vu tes hennissements, tes criminelles prostitutions. Dieu trouve que c'est de la prostitution criminelle. C'est horrible aux yeux de Dieu quand il voit un de ses enfants en train de patauger dans des idoles puis des toutes les fausses les prostitutions qu'il y a dans cela. Il dit sur les collines puis dans les champs, j'ai vu tes abominations. Il dit malheur à toi, Jérusalem. Jusqu'à quand tarderas-tu à te purifier? Dieu s'attend à ce que son peuple coupe tout ça. Toute relation de communion dans la fraternité interreligion. Je te dis pas que tu verras pas ta mère parce qu'elle est catholique et tu n'as plus le droit d'y parler. Là, c'est pas ça que je dis. Qu'est-ce qui est de parler entre humains? On se parle entre humains. Il n'y a pas de problème. Moi, je côtoie plein de monde catholique, que du monde que j'aime puis du monde bien correct, mais ils ne cherchent pas à m'endoctriner dans leur doctrine. Puis moi, je lui partage la parole de Dieu puis c'est bien correct. C'est pas là le problème. Le problème, c'est si je décide de participer à leur culte, à leur sacrifice, leur messe, leur réunion, leur prière, là, on est en train de participer à leurs idoles. Et Dieu, il dit, quand est-ce que tu vas te purifier? Quand est-ce que tu vas arrêter ça? Parce que Dieu s'en horreur, puis il dit, j'ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Puis ça dit, elle n'a pas voulu se repentir, Jézabel. Il dit, je vais envoyer une grosse tribulation sur tous ceux qui commettront adultère avec elle. Dieu a déjà un jugement prévu sur son Église pour tous ceux qui sont en train de se prostituer avec l'écuménisme présentement. 1 Corinthiens 10, c'est un beau verset. Au verset 13. Puis tout le monde l'aime, ce verset-là. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais ce qu'on oublie de lire, c'est l'autre verset qui vient tout de suite après. C'est pourquoi, bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Dieu est bien prêt à ce que tes épreuves ne soient pas plus fortes que tes forces. Il est prêt à te bénir, te donner la force. Il veut t'être avec toi dans tous tes pas. Il veut t'entourer. Il veut toutes ses promesses, il veut te les donner. Fuis l'idolâtrie. Parce qu'au moment que tu commences à participer à ça, hop, il est souillé par ses péchés. Puis là, il dit, repends-toi, purifie-toi de ta vie. Mais il ne peut plus agir sur ta vie, tu es contaminé par un autre esprit. Puis là, les gens peuvent vivre 1 an, 5 ans, 10 ans, puis peut-être tout le reste de leur vie contaminée. Puis ils se demandent pas pourquoi que ça va pas bien dans leur vie chrétienne. Ils sentent plus la présence de Dieu puis l'onction. Ils sentent pas l'approbation de Dieu. Ils vivent plus de choses avec Dieu, puis ils se demandent pas pourquoi. Puis Dieu veut que les gens se repentent. Les gens fuient l'idolâtrie. Le pire dans tout cela, c'est que de véritables enfants de Dieu qui sont encore attachés à ces pratiques. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rompu avec leurs croyances du passé. Puis ils parlent encore à leurs parents décédés. Ils retournent voir et assister à leur ancienne religion. Pourquoi que les gens sont emportés à y retourner? C'est parce qu'ils n'ont pas encore rompu. Ils n'ont pas encore décidé de mettre un terme à cela. Pourquoi je serais porté à prier mon enfant qui est décédé? Parce que j'ai un lien, je l'aime, puis je pense que je pourrais y parler. Dieu dit de ne pas parler aux morts. Fait qu'il faut que je rompe ça. Et automatiquement, il ne faut même pas que je laisse mon corps commencer à vouloir exprimer quoi que ce soit. J'ai pas le droit de parler aux morts, puis de lui demander encore moins des faveurs, parce qu'il y en a qui pensent que leurs parents décédés veillent sur eux autres, puis qu'ils vont avoir des secours, puis des aides, puis qu'ils sont là pour les aider, ou des anges gardiens, puis ils prennent un ange gardien. Les anges de Dieu, les vrais, là, quand les chrétiens, comme Jean sur l'île de Patmos, dans la vision de l'Apocalypse, il était trop étonné, il a voulu se mettre à genoux devant l'ange, puis l'ange, il a dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Un ange de Dieu, il acceptera pas d'être adoré, puis d'être servi, puis qu'on s'attache à lui. Il va mettre un terme lui-même à cela, mais les esprits qui sont pas de Dieu, les anges déchus, eux autres, ils ont parti des révélations, des idées, des belles affaires, puis là, ils veulent que tu rentres dans leur culte. Frères et sœurs, il faut rompre avec notre passé. Si on était dans témoin de Jéhovah, puis qu'on a réalisé que les témoins de Jéhovah ne sauvent pas parce qu'ils ne croient pas au vrai Seigneur, ils pensent être sauvés par leur vie, ils ne croient pas que le Seigneur est Dieu. Si j'ai rompu, je romps, puis il n'y a plus question de fraternité avec ces faussetés-là. Le catholicisme, c'est la même affaire. L'islamisme, n'importe quelle religion, il n'y a aucune qui sauve que le nom de notre Seigneur. Puis on ne peut pas adhérer à aucune de ces choses-là sans être contaminé. Dieu, le dernier verset, il s'attend, puis il nous demande formellement de se séparer de toutes ces prostitutions. Au début, quand on a partagé, Dieu veut émonder. Il veut qu'on porte plus de fruits. Mais il veut qu'on soit prête à renoncer, puis d'arrêter de fraterniser avec ça, puis d'aller dans leurs réunions. C'est bien beau qu'il y aura un temple de Baal, puis un de mes oncles sera là, puis j'aime bien cet oncle-là, puis que là, il sacrifie son enfant à Baal, cette journée-là, puis il m'invite d'assister à sa réunion, puis moi qui ai un gros lien avec mon oncle, je dis, ben je vais y aller. Je pose la question, y iriez-vous à ce temple-là de satanique, puis il offre en sacrifice son enfant à son Dieu? Est-ce que vous y iriez? Je l'ai dit à des pasteurs, ça. Ils m'ont répondu, ben non. Mais j'ai dit, pour moi, l'Église catholique, c'est exactement la même affaire. C'est un culte aux démons, à des idoles. Il y a plein de statues, là, c'est rien que de ça, puis des images, puis le monde se met à genoux devant ça, puis allume des lampions devant ça, puis ils pensent tous de recevoir des bénédictions de ça. Puis moi, il n'est pas question que je mette les pieds là. J'ai averti mes enfants, si vous, un jour, vous décidez de vous marier, allez pas vous marier dans une église catholique parce que moi, je rentre pas là. Moi, quand je me suis converti, frères et sœurs, il y avait une politique dans les églises baptistes, ils t'offraient une feuille, ça s'appelle une lettre d'abjuration. Tu signes ta feuille, puis tu marques « Je renonce à être membre de l'Église catholique ». J'ai envoyé la lettre à l'archevêché, puis j'ai dit « Renvoyez-moi la lettre avec le sceau de l'archevêché, comme quoi ils avaient enlevé mon nom de vos registres. Je ne suis pas un catholique, puis je ne fais pas partie de votre religion. » Ils m'ont renvoyé ma lettre. J'ai rompu avec ça. Aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas d'y retourner. Pourquoi? Ben, je sais qu'ils ne prêchent pas les vrais affaires. Regardez bien ce que Dieu dit. Encore, là, tous les versets que j'ai mis là, il y a le lien qu'on aime les gens. Là, on pense que ça, c'est plus fort que d'aimer Dieu, que Dieu a déjà déclaré des jugements sur ça. Dernier verset, 2 Corinthiens 6, 14. Frères et sœurs, écoutez bien ce dernier verset. N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants. Parce qu'il y a deux catégories. Soit tu crois, ou soit tu es un incroyant. Là, il dit, quand tu es croyant, va pas te mettre ces jougs, les jougs, c'est des liens, des chaînes. Les jougs, c'est des choses pesantes qui te tiennent captifs. N'allez pas placer sur le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comment, en effet, ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut avoir en commun avec un incroyant? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit. Je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Là, c'est clair, ce verset-là, là, il nous dit, qu'est-ce qu'il y a de semblable entre ça et ça? Il n'a pas rien de semblable. La suite, là, de ce verset-là, verset 17, c'est pourquoi vous devez les quitter. Et vous séparez d'eux. Ne touchez pas à rien d'impur. Et moi, je vous accueillerai. Touchez pas à ce qui est impur. C'est quoi qui est fait que c'est impur? Parce que c'est des démons qu'il y a là-dedans. Le culte de cette cérémonie-là, c'est un sacrifice à des démons. Tu touches à ça, l'eau bénite, toute la messe qui est un sacrifice d'une messe, c'est un sacrifice. Quand je m'assis là, je participe au sacrifice aux idoles. C'est bien plus que juste manger de la viande en dehors. T'es rendu dans le sacrifice en train de participer. T'es devant en train de rendre ce culte-là et t'approuves ça. Il dit, vous devez vous séparer. Il dit, touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit Seigneur Tout-Puissant. Toutes ces promesses sont valables pour nous, mes chers amis. C'est pourquoi purifions-nous de tout ce qui salit le corps ou l'âme et efforçons-nous d'être parfaitement saint en vivant dans le respect de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire bien clairement qu'il n'y a rien de commun entre ces choses-là, et Dieu considère que quand nous allons là, nous nous souillons. Qu'est-ce que j'ai dit aussi? Si on, en plus, on a des liens qui s'enracinent dans ces choses-là, qu'on aime ça, on est lié par l'esprit de prostitution. On devient égaré. Après ça, quand on se promène, tant qu'on ne s'est pas purifié de cela, qu'on n'a pas renoncé, on est encore en contact avec cela, puis Dieu, il n'est plus capable d'être en contact avec nous. Il dit, séparez-vous, purifiez-vous, et je serai un père pour vous. Vous serez pour moi des fils et des filles. Quand il dit, séparez-vous, et je vous accueillerai, dans la version Louis II, le accueillerai, le mot grec que là, veut dire, je répandrai mes faveurs sur vous. Si vous voulez être exaucé dans vos prières, il faut apprendre à marcher de façon à recevoir les faveurs de Dieu. Tout simplement, dans cette étude-là, c'était de renoncer aux esprits séducteurs et aux doctrines de démons. Si on le fait, puis qu'on renonce devant Dieu, puis qu'on demande pardon, puis qu'on dit à Dieu, je ne veux plus de chasse-là, si on le fait, Dieu va nous bénir, il va nous entourer, hein? Il va nous accueillir dans le mot grec qui est là, qui veut dire cela, bénir, nous entourer, nous prendre soin de nous. Puis le contraire de ça, si on dit, ah ben moi et mon frère ou ma mère, il va, moi, faut que j'y aille, à cause du lien humain, on considère que notre lien humain est plus important du lien qu'on a avec Dieu, on va se priver de bénédiction de Dieu, faire plaisir, on peut pas, frères et sœurs. Il faut réaliser que le mensonge ou la séduction puis les démons qu'il y a là-dedans, c'est pas un jeu. On ne joue pas à être chrétien. Nous sommes des chrétiens. On ne joue pas contre la puissance des ténèbres. On est en guerre contre la puissance des ténèbres. Nous devons résister aux choses qui sembleraient nous attirer. Je ne dis pas qu'il faut parler à notre mère. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est de ne pas participer à ces fausses religions. Quand on en parle après ça à nos familles et qu'on explique les choses bien clairement, mon oncle, ma grand-mère est décédée. Deux semaines avant qu'elle décède, elle m'a demandé « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Là, elle s'inquiétait de son âme. Tout le long de sa vie, « Achale-moi pas par ta religion. » Deux semaines avant de mourir, elle avait le cancer. « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » J'ai dit « Faut que vous mettiez votre foi que c'est Jésus qui est mort sur la croix de pardonner vos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen, c'est pas votre religion. » J'y ai fait faire la prière de repentance, puis deux semaines après, elle est morte. Mon oncle, pendant que c'était là, était quand même, vu qu'elle faisait partie de l'Église catholique, avant, mon oncle l'a emmené au service à l'Église. Là, mon oncle me demande, « Qu'a fait? Tu viens-tu à l'Église? » Moi, je ne vois pas là-dedans. Là, « Comment ça? Tu viens pas? C'est ta grand-mère. » J'ai dit, « Ma grand-mère, premièrement, deux semaines avant de mourir, elle a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Elle croit plus à cela. Elle croit que c'est Jésus qui est mort sur la croix. » Ça, c'était la première réponse. La deuxième, j'ai dit, « Pourquoi tu voudrais que j'aille dans une religion que toi-même tu crois pas? » Parce qu'il ne va pas de l'année dans cette religion-là. Moi, je le sais que c'est une fausseté, cette religion-là. Puis tu voudrais que j'aille dans une place que je sais que c'est faux, quand toi-même, tu n'y vas même pas. Puis même s'il y errait toute sa vie, je n'y errais pas plus, parce que je le sais que c'est faux. Puis je le sais que Dieu ne veut pas. Si vous voulez faire un service ou comme une exposition dans le salon mortuaire, pas de problème, on va être là. Mais je ne prierai pas déjà « Vous salue Marie ». J'embarque pas dans ces prières-là. Je ne rendrai pas de culte à Marie parce que eux autres dans ma famille veulent rendre un culte à Marie. Moi, c'est le Seigneur Yeshua, Dieu le Père. J'en connais pas d'autre. Marie n'a pas d'affaires là, puis je ne rendrai pas de culte. Puis si vous voulez, comme j'ai dit à mes enfants, vous voulez que j'aille à votre mariage, mariez-vous dans. Si vous voulez pas vous être marié à l'église, mariez-vous dans une salle normale, là. Puis même par un juge de paix, mais faites-vous pas marier par un prêtre catholique parce que vous trouverez un autre témoin. C'est tout simple que ça. Ça règle l'affaire parce que c'est pas le lien d'amitié, d'amour envers une personne qui doit être une priorité plutôt que de dire « je veux faire ce que Dieu aime, ce que Dieu me demande ». Et d'après moi, ce que je viens d'expliquer, c'est ce qu'il demande. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils qu'on se rapproche de toi. ton seul et unique Fils qui est notre Sauveur et notre Seigneur, qui s'appelle Yeshua, mais qu'on l'appelle Jésus ici en français. Seigneur, on reconnaît qu'il n'y a pas d'autre salut en dehors que toi. Ton sacrifice que tu as payé il y a 2000 ans, tu t'es offert en sacrifice toi-même pour que je puisse être pardonné. Ton sang qui était versé me lavé de tous mes péchés. Puis je reconnais que ma marche doit être conforme à ta parole afin de ne pas me laisser égarer. C'est pour cela, Seigneur, j'viens te remettre tout ce qui est des tentations, des séductions des autres religions qui se passent présentement, qu'on voit sur Internet ou qu'on entend dans nos familles. Je renonce à toutes ces choses en le nom de ton Fils. Je te demande de briser tout lien, toute chaîne, tout ce qui a pu me tenir captif ou toute racine dans mon cœur qu'elle aurait pu prendre dans cette fausseté-là. Puis je renonce à ces choses en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis je te demande, Seigneur, de me remplir de ta paix, de ta joie, de ta puissance, et apprends-nous le combat, Seigneur. Apprends-nous à combattre contre les esprits de séduction qui sont là présentement dans ce monde, puis qu'on puisse utiliser ta parole pour résister à tous ces mensonges-là, afin de ne pas en être contaminé, de ne pas en être déclaré impur de ta part. Seigneur, accueille-nous, tu es notre Père, et je te remercie, Seigneur, de nous prendre comme tes enfants, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.